Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
It's like someone is always watching me.
There you are. I can see you.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Possible que seul un petit groupe restreint d'individus se rappelle d'une émission de télé obscure datant des années 70.
Candle Cove est une émission destinée aux enfants où des marionnettes bizarres vivent différentes histoires de pirates.
Est-ce possible que cette émission n'ait jamais existé? Ou encore, qu'elle soit une fabrication de notre mémoire collective?
Ce soir, allumez-vous une bougie et suivez-nous à Candle Cove.
Bonsoir Émile Gauthier, comment ça va?
Ça va très bien Seb, parce que on aborde un sujet que ça fait longtemps qu'il est sur notre liste.
Oui.
On a couvert quelques creepypastas dans le passé, ou du moins des légendes urbaines ouais. d'Internet. C'est toujours le fun de retourner vers ces, oui. ces histoires-là. On a l'impression un peu de se raconter des histoires autour d'un
oui.
feu, sauf qu'on est autour de nos iPads puis nos téléphones cellulaires. Et Candle Cove, c'est une des creepypastas les plus populaires. Et ça fait longtemps qu'on pensait la couvrir.
Ouais.
Creepypasta, on se rappelle, ça vient de copy-paste. Donc, c'est des petites histoires souvent qui sont créées par les internautes et que par l'effet de bouche à oreille et de viralité sur le web vont parfois prendre des proportions plus grandes que nature.
Mm-hmm.
Ce fut le cas du Slenderman, entre
exact.
Autres, qu'on a abordé dans notre saison 1.
Oui, t'as bien raison. Pour vous le résumer, pour les gens qui connaissaient pas, en fait, le Slenderman, c'est un personnage qui a été créé sur le web à partir d'un concours, en
oui.
fait. Le concours, fallait utiliser une image avec un décor, peu importe, souvent qui provenait de plus d'une époque plus
oui.
lointaine, plus du passé, et y intégrer un élément. Un élément fictif, mais qu'on croyait qui était réel. Et justement,
sur Photoshop.
Oui, exactement. Et l'initiateur de ça a intégré dans deux contextes des enfants dans un parc, entre autres, et on voyait
mm-hmm.
à l'arrière un genre de personnage, le Slenderman, un personnage long, noir, avec les bras...
Tentaculaires.
Étirés, oui, tentaculaires, avec un visage sans visage.
Oui.
Pas de nez, pas de bouche. Donc, et le personnage du Slenderman est devenu
mythiques sur l'Internet, les déclinaisons d'histoires et de mimes et de toutes les variantes ont amené au fait que deux petites filles se sont mises à y croire et ont malheureusement tenté de satisfaire le Slenderman pour vrai dans la vie et ont tenté d'assassiner une de leurs amies.
Oui.
pour l'offrir en offrande au Slenderman pour protéger leur famille. Ceux qui l'ont pas écouté, c'est dans notre première saison,
oui. Me semble.
Oui, donc je vous invite à l'écouter. C'est une super histoire. Moi, c'est un de mes cas préférés, le Slenderman. Puis justement, c'est un des premiers cas que de creepypasta réel, qui a eu une conversion dans la vraie vie, ou du moins un impact comme ça, là. Donc c'est vraiment une histoire fascinante. Des creepypasta comme le Slenderman, il n'en existe pas tant que ça, heureusement, dans un certain sens.
C'est vrai.
Parce que la finalité, elle est pas heureuse. Quand ça reste dans le fictif, c'est toujours agréable. Mais quand ça se rend dans la vraie vie, c'est moins agréable.
Oui. Dans le cas de Candle Cove, il y a eu quand même des impacts dans la vraie vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que cette histoire-là est démarrée, apparemment, selon la légende, sur un vieux forum Internet au début des années 2000, okay, où un certain groupe d'internautes se rappelle d'une émission pour enfants qui a été diffusée là, localement dans les années 70 dans leur ville, okay, à eux, et c'était une émission vraiment troublante qui provoquait des cauchemars auprès des enfants. Et il y a un peu la théorie de l'effet Mandela là-dedans,
oui,
aussi, hein, où justement, est-ce que justement, lorsque un petit nombre de gens tentent de se convaincre d'une réalité, on peut se fabriquer justement une mémoire et un souvenir. Est-ce, ouais, que Candle Cove, cette série-là, a vraiment existé ou pas? Eh bien, cette histoire-là, qui était d'abord un creepypasta, a eu des répercussions plus grandes que nature, c'est-à-dire que des gens ont créé toute forme de contenu sur le web qui a élaboré cette création au point où encore aujourd'hui des gens semblent convaincus que Candle Cove a vraiment existé. Donc c'est un sujet vraiment là pour justement s'allumer une bougie,
oui,
relaxer chez vous avec une bonne bière, oui, un petit verre de vin ou de whisky, et puis vous laisser porter par nos douces voix suaves.
Oui.
Et parlant de boisson, oui, Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir?
Oui, ce soir on boit une ale amérindienne,
oui,
de la c'est la première fois en fait que je bois une ale de type ale amérindienne de la microbrasserie Le Naufrageur, qui est située à Carlton-sur-Mer en Gaspésie.
Oh oui.
C'est vraiment une bonne bière, c'est une double blanche à 7.2%. Elle est 70% d'IBU, donc son amertume est quand même assez présente.
Oui.
Mais je trouve que c'est une blanche qui a du coffre, là. Elle a du caractère, en fait.
Ah oui.
Elle a des notes de blanche, mais je sais pas comment définir ça. Elle tourne justement vers la Pale Ale, mais le goût d'épices, il y a un goût d'épinette, justement, qui est vraiment bien. Et justement, leur motto à cette microbrasserie-là, c'est que justement, ils essaient de réaliser des bières en hommage au savoir botanique qui a été légué par les Amérindiens. Donc, dans leur fabrication, ils reprennent des vieilles recettes indiennes. Ils utilisent des plantes et des herbes qui viennent de la Gaspésie. Ils font un amalgame avec ça pour créer ce
c'est
genre
délicieux.
De... Mais c'est vraiment bon. Cette bière-là, j'adore l'arrière-goût d'épinette, en fait. Je sais pas
oui,
si c'est du goût.
Il y a vraiment des goûts herbeux,
oui,
d'épices aussi, tu l'as mentionné.
Oui,
là,
vraiment
c'est,
bien.
C'est délicieux.
Vraiment bien. Et cette bière-là nous a été offerte par, en fait, on fait un shout-out au biérologue qui nous fournit en bière maintenant, qui moi et Émile, comme on dit toujours, on passe à peu près toutes nos journées là, façon de parler bien sûr. Donc on remercie le biérologue qui est situé sur Ontario, qui est le meilleur endroit pour acheter de la bière à Montréal.
Oui.
Et par rapport à ça, cette bière-là nous a été offerte par qui, mon cher Émile?
Par Pierre-André, le chum Pierre-André qui,
oui,
nous offre ça via le distorsionpodcast.com sur l'onglet tournée de bière. Vous pouvez encourager le show en nous offrant une tournée de bière qui nous permet justement de remplir le fridge de distorsion. Donc, merci à toi, Pierre-André.
Oui, on a un shout-out encore une fois à maboucherieenligne.ca. Comme on vous le rappelle, là, si vous, vous voulez commander de la viande en ligne, oui, maintenant on est à une époque, c'est le Amazon de la viande au Québec, maboucherieenligne.ca. Et si vous voulez, on a une promotion pour vous avec le code promo Distorsion. Vous avez 5% de rabais sur votre première commande. Donc, on vous invite à y aller. Nous, on a goûté à plusieurs morceaux de viande et c'est génial. La qualité est vraiment là.
Une bonne qualité locale de produits. Oui. Vraiment savoureux.
Ah, vraiment, c'est tellement bon.
Un petit shout-out ici à un utilisateur d'Apple Podcast du nom de GCOM001 qui, via une review 5 étoiles, nous dit « La lumière éteinte dans le salon en couple. Fini la TV, les vidéos. J'ai récemment découvert Distorsion. »
Oh.
Mon cher Seb, est-ce que t'es prêt à te plonger dans la légende de Candle Cove?
Oui, monsieur. Oui,
monsieur. Allons-y. Allons-y. En 2009, plusieurs internautes fréquentent le forum de Net Nostalgia. Nous sommes au début des réseaux sociaux et les gens vont encore souvent se rassembler sur les forums de discussion afin d'aborder différents sujets entre eux. Mm-hmm. Celui-ci, Net Nostalgia, traite tout particulièrement des souvenirs de jeunesse, d'histoires du passé, de mémoires en fait, de trucs qui ont marqué notre enfance. Mm-hmm. Il existe aussi une section dédiée aux émissions de télévision de la région métropolitaine du Grand Huntingdon, qui est une région des États-Unis qui comprend plusieurs comtés dans les États de la Virginie, de l'Ohio et du Kentucky. Dans cette section du forum, les gens discutent surtout d'émissions de jeunesse particulières à cette région, donc du contenu très local. En 2009, à une date qui nous est inconnue, car plus rien n'existe de Net Nostalgia, un utilisateur du nom de SkiesL033 va poster dans cette section télévision un sujet du titre de Candle Cove, cette émission pour enfants, avec un point d'interrogation à la fin. Comme s'il se demandait si ça existait vraiment. Et le sujet va comme suit. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette émission pour enfants? Elle s'appelait Candle Cove et je devais avoir 6 ou 7 ans. Je n'en ai jamais trouvé la mention sur le web. Je pense que c'était diffusé sur une station locale vers 1971 ou 1972. J'habitais à Ironton à cette époque. Je ne me souviens plus de quelle station, mais je me souviens que c'était à une heure bizarre, comme à 16 heures. Et là, plusieurs jours passent sans que personne ne réponde à la question de l'utilisateur. Mais à un certain moment, un autre utilisateur du forum du nom de MikePainter65 lui répond « Cela me semble vraiment familier. J'ai grandi dans la région d'Ashland et j'avais 9 ans en 72. Candle Cove, est-ce que ça avait un rapport avec des pirates? Je me souviens d'une marionnette pirate à l'embouchure d'une grotte parlant à une petite fille. » Et là, Skies Hale, le premier là, qui a publié la question dans le forum, va répondre un peu plus tard. « Oui, ok, donc je ne suis pas fou. Je me souviens du pirate Percy. J'avais toujours un peu peur de lui. Il avait l'air d'avoir été construit à partir de pièces d'autres poupées et autres marionnettes avec un très petit budget. » Sa tête était une vieille poupée en porcelaine qui ressemblait à une antiquité qui ressemblait à rien d'autre sur le corps. Je ne me souviens plus sur quelle station c'était diffusé. Je ne pense pas que c'était WTSF cependant.
Bien sûr, pour les plus jeunes qui nous écoutent actuellement, à une certaine époque, les stations de télé étaient des stations qui diffusaient sur les ondes radio.
Ben oui.
Oui, c'était une autre époque. On changeait les postes avec une roulette. Je peux paraître quand même un peu vieux en tenant ce discours-là, mais on oublie parfois que ça fait longtemps que les télés sont passées à une autre technologie. Même, il y a une époque, je sais pas si vous avez connu ça, avec un genre de télécommande avec un long, long fil, puis tu changeais les postes. C'était Vidéotron, je pense qu'il y avait ça à l'époque, là, ça faisait cloc, 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 cloc. T'avais tous les postes étaient représentés sur un genre de gros bloc de manette qui était branché avec un fil et on changeait la télévision avec ça. Ça me rappelle un peu ce souvenir-là.
Et oui, tu fais bien de le mentionner, Seb, parce que si je suis sûr qu'il y a plein de nos auditeurs qui sont nés dans les années 90, puis il est fort probable que vous n'ayez jamais connu ça.
Effectivement. Un peu plus tard, alors que le sujet ne gagne aucune traction et qu'il est perdu au fond du site, Net Nostalgia, il y a un autre internaute du nom de Jaron2005, qui lui aussi est membre du forum, va commenter la publication et lui aussi semble se rappeler de Candle Cove. Il nous dit ceci. « Désolé de ressurgir cette vieille discussion, mais je sais exactement ce dont tu parles, Skiles Hill. Je pense que Candle Cove n'a duré que quelques mois en 1971, mais n'a pas été diffusé en 1972. J'avais 12 ans et j'ai regardé quelques fois avec mon frère. C'était au canal 58, mais je ne me rappelle pas du nom de la station. Ma mère me permettait de changer de poste après les nouvelles pour l'écouter. Laisse-moi savoir ce dont je me souviens. » L'émission se déroulait à Candle Cove. Il s'agissait d'une petite fille qui s'imaginait être amie avec des pirates. Le bateau pirate s'appelait le Laughingstock et le pirate Percy n'était pas un très bon pirate parce qu'il avait peur trop facilement. Et la musique d'un calliope y jouait constamment. Pour préciser, un calliope, c'est un genre d'instrument de musique qui ressemble un peu à un orgue, mais au niveau de
à vapeur,
oui, c'est ça, il y a des petits tubes puis c'est comme une musique un peu on dirait un peu un chemin de fer ou un train, en fait pas un chemin de fer, un train qui fait plou.
Dans les
sonorités.
Ça ressemble un peu musique de cirque ou musique de fête foraine.
Oui, c'est quand même assez particulier si ça vous intéresse Calliope sur YouTube. J'y continue. Je me souviens pas du nom de la jeune fille, Janice ou Jade ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était Janice. Skies L, celui qui a publié la première fois, va lui répondre. Merci, Jaron. Les souvenirs me sont revenus lorsque vous avez parlé de Laughingstock et du canal 58. Je me souviens que la proue du navire est un visage souriant en bois avec la mâchoire inférieure immergée dans l'eau. On aurait dit qu'elle avalait la mer. Et elle avait cette voix affreuse, dead wine, ainsi que son rire. Je me souviens surtout du moment où ils sont passés des modèles de marionnettes en bois à la version en mousse avec la tête qui parlait. Ça m'a vraiment marqué. C'est alors que Mike Painter va revenir lui aussi avec d'autres souvenirs.
Mike va faire un commentaire marquant sur une partie de Candle Cove qu'il trouvait particulièrement terrifiante. Un moment dans un épisode où il est dit « Tu dois venir à l'intérieur. Bref, you need to come inside. » Sky Hill va lui répondre « Mike, j'ai eu froid dans le dos en lisant ça. » Oui, je me souviens. C'est ce que le navire disait toujours à Percy lorsqu'il devait entrer dans un endroit sinistre, comme une caverne ou une pièce sombre où se trouvait le trésor. Et la caméra effleurait le visage de Laughingstock à chaque pause. « Vous devez aller à l'intérieur. » Avec ses deux yeux de travers et cette mâchoire en mousse qui battait et le fil de pêche qui servait à l'ouvrir et à la fermer, c'était si bon marché et si affreux. Skies Hill va continuer. « Vous vous souvenez du méchant? Il avait un visage qui était simplement une longue moustache en fer à cheval au-dessus de dents très grandes et très étroites. » Et là, à ce moment-là, un autre internaute va apparaître dans la discussion du nom de Kevin Hart. Et là, je parle pas de l'humoriste connu, un Kevin Hart beaucoup moins connu, qui lui aussi a des souvenirs de l'émission de télé. Jusqu'à présent, il y a rien de viral dans cette publication-là. C'est juste un petit groupe de gens qui discutent sur le site de Net Nostalgia. Donc, à ce moment-là, Candle Cove n'a pas le statut de légende urbaine qu'elle a maintenant. Là. C'est encore très...
embryonnaire.
Oui, embryonnaire, totalement. C'est une petite discussion dans les fins fonds du web. Et là, ce fameux Kevin Hart va écrire « Très honnêtement, j'ai toujours cru que le méchant était le pirate Percy. J'avais environ 5 ans quand cette émission a été diffusée. Du vrai carburant à cauchemar. Oh. » Oui, on va en reparler tout à l'heure. Il y a quand même des émissions de notre enfance aussi qui nous faisaient faire des cauchemars. Et ce à quoi, quelque temps après, Jaron2005, donc un autre utilisateur de ce forum-là, va répondre. Ce n'était pas le méchant, la marionnette à la moustache. C'était le compagnon du méchant, Horace l'Horrible. Il avait un monocle aussi, mais sur la moustache. J'ai toujours cru que cela signifiait qu'il n'avait qu'un seul œil. Mais oui, le méchant était une autre marionnette. Le preneur de peau ou le voleur de peau. Je ne peux pas croire qu'ils nous ont laissé regarder cette émission à l'époque. C'est clair, hein?
Il n'y avait pas les mêmes standards au niveau de l'éthique, ou je me demande même s'il y avait à cette époque-là, tu sais, maintenant, la notion d'âge,
oui,
pour un public
sûr.
Avisé, pour tous, général, 13 ans, 16 ans, etc. Je me souviens pas si à cette époque-là, il y avait cette notion-là,
bonne
ou du
question.
Moins cette classification-là. Donc, effectivement...
Ça devait certainement pas être aussi encadré, du
non,
moins.
Non, ça, c'est sûr que non.
Kevin Hart va en ajouter sur ce fameux voleur de peau. Et là, il répond « Jesus Christ, le voleur de peau. Mais quel genre d'émission pour enfants regardions-nous? Je ne pouvais sérieusement pas regarder l'écran lorsque le voleur de peau était à l'écran. Il descendait de nulle part sur ses cordes de marionnette avec son squelette sale portant ce chapeau haut de forme brun ainsi qu'une cape et ses yeux de verre qui étaient trop grands pour son crâne. Mon doux Seigneur Tout-Puissant. » Et c'est vrai que, en fait, quand on regarde ça, surtout avec notre mémoire d'enfant, parce qu'à l'époque, ces gens-là étaient tout jeunes, donc ouais. Leur mémoire est peut-être un petit peu différente maintenant.
Oui.
Mais même nous, Seb, on se rappelle qu'il y a quand même des émissions de notre enfance qui avaient des petits côtés creepy aussi. Là.
Oui, t'as bien raison, et on va peut-être en surprendre ou non, mais l'émission passe partout. Qui est extrêmement populaire au Québec et qui est encore populaire. Là,
oui,
et même
oui.
Il va avoir un remake ou du moins pas un spin-off, là, mais ils le refont, ils vont le refaire pour l'année 2019, ce que je trouve qui est une bonne idée. Bref, cette émission-là avait quand même certains moments creepy et qui se promènent encore sur le web. Là. Je vous invite à aller sur YouTube. Là. Il y a des gens qui ont bien isolé les moments, comme je peux vous parler actuellement. Là. Pascaro qui mime un chat qui se lave.
Oui, cette scène-là,
oui.
Qui avait quand même une certaine, je sais pas comment dire, mais...
Ben, il y a une connotation
sexuelle,
oui. Absolument. En fait, quasiment tous les travers qu'on voit de Passe-Partout ont tous une connotation sexuelle, ou à peu près.
Mm-hmm.
L'éléphant que Passe-Montagne amène dans sa maison, qui est terrorisant. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça.
Moi, j'ai fait des cauchemars avec cet éléphant-là.
Ah, oui?
Ben, il me semble qu'il y avait l'espèce de son d'éléphant qui était enregistré ou qui devait provenir d'une banque de sons avec ça hurlait dans les décors de Passe-Partout. Puis à l'époque, il m'avait fait peur.
Ouais, ben oui, mais on était jeunes. Ou il y a même les chaussures de la casou, le zèbre, je sais pas si vous vous souvenez, qui mangeait les camions.
Oui, exactement.
C'est vrai que c'est un peu étrange, mais bon, c'est de l'imaginaire. Aussi, je sais pas si vous vous rappelez de Cocotte Minute.
Oh oui, et ça...
Ça remonte à loin quand même.
C'était pas un de mes favoris.
Non, moi non plus. Ulysse le poussin qui était toujours cloîtré dans son œuf placé sur le bord de la fenêtre d'une petite maison où résidait Cocotte, la poule qui était reine du boogie, du foxtrot et du popcorn. Celle-ci vit avec Minute, qui est un renard amoureux d'elle, qui est devenu végétarien pour elle. C'est bien, il était précurseur.
Oui.
Et dont le passe-temps était de jouer de la guitare. Le couple a pour ami qui vient souvent leur rendre visite Anatole Bonbon, l'alligator qui collectionne tout ce qu'il peut attraper et qui vit dans une petite cabane. Enfin, on y trouve l'affreux, le méchant et horrible Draduli, le monstre du marais et roi des déchets.
Et moi, ce que je me rappelle de ça, c'était très brun et sombre et triste, là, Cocotte Minute. Là.
Ouais, mais c'est vraiment vague, ce souvenir-là, Cocotte Minute. Je vois quelque chose, mais j'ai l'impression que ma mémoire construit quelque chose tellement que j'ai pas de souvenir tant attaché à ça. C'est vraiment étrange. Je me demande quasiment, ben je sais que ça existait, mais je me questionne quasiment sur l'existence. Un autre épisode, les enquêtes de Chlorophylle. Ça, je me souviens un petit peu plus quand même.
C'était diffusé en Europe, ça aussi.
C'était diffusé au Canada. Hein?
Oui, aussi.
Oui, c'est ça, oui, effectivement. C'est ça, parce que j'ai un souvenir. Donc, comme tu disais, c'était diffusé en Europe. Il s'agissait d'un héros qui combat le crime orchestré par des méchants rats. Et c'était vraiment bizarre. Il y avait des vrais animaux mélangés avec des marionnettes.
Oui, je sais pas si tu te rappelles de ça.
Très peu, c'est vraiment...
Il y avait parfois, on dirait qu'il attachait des genres de poupées sur des vrais animaux, tu sais, puis qu'il faisait acter, là. Il pouvait mettre un genre de petit, un genre de petite poupée de rat sur un canard, par exemple. Okay. Puis il filmait le vrai canard, puis t'avais toujours ces mélanges de vrais animaux, de faux animaux, c'était... moi, ça me...
C'est un glitch, là.
Oui, c'est ça. Ça me fuckait le cerveau, là.
Ouais, ben oui. Non, moi, j'ai pratiquement pas de souvenirs. Mais c'était quand même bizarre, là, comme tu dis, ce mélange-là, des marionnettes qui chevauchent des vrais animaux. Parfois, le réalisme des marionnettes avec le mélange, ça créait des malaises.
Oui, oui.
On ne faisait que regarder les détails pour vérifier si les animaux étaient vrais ou faux, là. Ça, je trouve que comme tu dis, ça devait biaiser un peu quand t'écoutes. Vraiment bizarre pour des yeux d'enfant, là. Puis là, on vous épargne, effectivement, les Sentinelles de l'air et les Teletubbies, là, qui se...
Oui, les Sentinelles de l'air, je pense que même nous, Seb, on est peut-être un peu...
On est trop jeune. On est trop jeune. Oui, on est trop jeune.
On est trop jeune. Moi, j'ai pas ces références-là, mais...
Pas du tout, moi non plus.
Je me rappelle, mes parents ou même mes oncles, tout ça m'en parlait. Ah oui, les Sentinelles de l'air, c'était cool.
C'est une révolution à l'époque.
Ben oui, mais quand je regarde ça avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est... Je trouve ça presque, justement, creepy, tu sais, les regards dans le vide, les drôles d'articulations, tout ça. Mais à l'époque, c'était complètement différent parce que c'était la modernité pour les jeunes garçons de cette époque-là, jeunes garçons et jeunes filles, évidemment, qui regardaient ces émissions de télé-là.
Ben oui, ben c'était quand même une première de faire bouger des... Tu sais, c'était un début d'animation, mais semi-réel. Tu sais, les marionnettes actives comme ça, ça existait pas, là. Maintenant, c'est remplacé par le CGI. Là,
ben oui.
En fait, tout le 3D. Mais effectivement, c'était quand même... je pense qu'ils voyaient pas ça, eux, comme quelque chose de creepy. Tout ce que tu dis, là, tu sais, par rapport au regard vide. Ou
Ah non, c'est sûr.
Et pour eux, c'est un autre regard.
Puis oui, tu as mentionné les Teletubbies. Ah ben ça, c'est presque les pires. Là,
oui, oui.
Mais ça là-dessus, je pense que nous, on est trop vieux pour avoir connu les Teletubbies. Mais je veux dire, on les a vus...
Oui, je les ai vus. Moi, mes jeunes frères et sœurs, ils étaient beaucoup plus jeunes. Fait qu'ils ils ont vécu cette période-là.
Ah oui.
Ça m'a toujours un peu troublé.
Mais moi aussi.
Je comprenais pas. T'sais, je comprends qu'il y a des émissions pour enfants, que c'est vrai que c'est un peu simple. Les enfants aiment ça quand même. Mais ça, je trouvais que c'était d'une simplicité, c'est quasiment abrutissante.
Il y avait un petit côté brainwashing dans les Teletubbies en même temps. Et moi, j'avais beaucoup de malaise. À commencer par, je sais pas si tu te rappelles, mais le fameux soleil avec un visage de bébé.
Ça, je m'en souviens.
Le genre de bébé qui est toujours en train de ricaner. Moi, je me suis toujours dit, tu sais, what the fuck, pourquoi il y a un bébé dans la... Dans le soleil, c'est vraiment bizarre. Il y a plusieurs scènes étranges qui ont marqué l'imaginaire aussi, là. Une certaine scène où tu vois deux Teletubbies. Moi, je les connais pas par leur nom, malheureusement.
Ouais.
Mais deux Teletubbies qui gambadent dans un genre de champ. Puis à un certain moment donné, il y en a un qui met sa bouche sur tu sais, lorsque c'est l'anniversaire de quelqu'un puis qu'on souffle dans un truc, puis ça se déroule, là, un genre de sifflet qui se déroule.
Pas une trompette.
Puis le Teletubbies utilise ça pour chatouiller l'anus d'un autre Teletubbies qui est penché devant. Donc, c'est une scène un petit peu weird qui est extrêmement suggestive, que tu dis, OK, ben, si je comprends que c'est un show pour enfants, c'est peut-être inoffensif, mais quelque part, c'est un petit peu bizarre.
Parce que c'est des adultes qui créer des shows pour enfants.
Oui, bien sûr.
J'aime oublier ça.
Des fois, c'était juste complètement weird. Moi, je me rappelle d'une scène aussi que j'avais vue beaucoup plus tard, évidemment, même sur YouTube, où, en fait, t'as plusieurs Teletubbies qui se retrouvent devant une maison rose, puis ils l'observent pendant plusieurs minutes, cette maison rose-là, puis à un certain moment donné, il y a un marin qu'on voit à travers les fenêtres qui commence à chanter vraiment frénétiquement, complètement fou, puis il disparaît à la fin, puis il me semble que la maison rose disparaît aussi, puis tu te dis, mais pourquoi ils ont regardé tout ce temps-là? Est-ce que le marin était prisonnier de la maison? Ou c'est juste des espèces de what the fuck un peu?
Ah, il n'y a aucun sens.
Il y a combien de sens justement à ça où il y en a zéro, tu sais? C'est la question se pose parfois.
Effectivement, parce que moi, c'est un peu ce qui m'avait troublé. C'est, je crois qu'il y avait des longueurs, il faisait des mouvements, des sons sans but précis. Ou je comprenais pas ça. Même les créateurs, à quoi qu'ils pensent. Mais je pense que les enfants, les jeunes enfants, là, je pense que dès qu'ils vieillissaient, ils décrochaient assez rapidement. Mais c'est les couleurs, c'était vraiment un environnement coloré et stimulant. Je pense que les enfants devaient plus accrocher là-dessus que de notre regard, mais moi aussi, je trouvais que... En fait, je trouvais pas ça bon. Je trouvais même pas ça pertinent pour un enfant.
Mais il me semble que c'était même pas éducatif.
Non, c'est ça, c'est qu'il y avait aucune pertinence. Il sautait « là là », puis il lâchait des cris comme ça, puis il gambadait, puis il y avait aucune information. Ça m'a toujours un peu déçu, quasiment. Hein.
Ah, complètement, complètement. On revient à notre histoire sur le forum de Net Nostalgia. Et SkiesL033 va commenter la publication qui était quand même assez troublante auparavant de Kevin Hart. Donc lui qui justement il parlait un peu plus en détail du preneur de peau, là, de ce fameux vilain. Là. Mm-hmm. Et là, SkiesL va dire « Ah oui, son chapeau haute forme et sa cape n'étaient-ils pas tous cousus bizarrement? Était-ce supposé être des peaux d'enfant? » Et là, Mike Painter va répondre « Oui, je pense que oui. De mémoire, sa bouche ne s'ouvrait et ne se fermait pas. Sa mâchoire glissait de haut en bas. Je me souviens de la petite fille qui a dit « Pourquoi ta bouche bouge comme ça? » Et le voleur de peau n'a pas regardé la fille, mais la caméra directement, et a dit à tous les spectateurs « Pour vous arracher la peau.
Oh. »
Et là, SkiesL33 va répondre « Je suis tellement soulagé de voir que d'autres personnes se souviennent de cette terrible émission de télé. J'ai toujours cet horrible souvenir, un mauvais rêve que j'ai fait, où, après le jingle d'ouverture, il y avait un fondu au noir et tous les personnages revenaient à l'écran. Mais la caméra coupait à chacun de leurs visages et chaque marionnette criait frénétiquement en se débattant devant la caméra. La petite fille n'arrêtait pas de pleurer, comme si elle avait enduré cela pendant des heures. Je me suis réveillé plusieurs fois après avoir fait ce cauchemar. J'avais même l'habitude de mouiller mon lit quand je le faisais.
Yeah. »
Donc, encore une fois, des cauchemars créés par Candle Cove. Sur ce, Kevin Hart va répondre « Je ne pense pas que c'était un rêve. Je me souviens aussi. Je me souviens que c'était un épisode bien réel. » SkiesL va lui répondre « Non, 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 c'est impossible. Il n'y avait aucun scénario, quoi que ce soit. C'était littéralement les personnages qui restaient en place, en pleurant et en hurlant pendant tout l'épisode. »
C'est donc bien weird, ça.
Ah oui, hein?
C'est les enfants qui pleurent et qui hurlent pendant l'épisode.
Ben oui, comme s'il n'y avait aucun scénario.
Oui,
là.
Ben oui, c'est donc bien étrange. Les trucs de peau, je sais pas, ça fait pas de sens.
Ben oui, comment une émission pour enfants peut avoir un vilain qui arrache la peau des enfants?
Ben oui, c'est digne d'un film d'horreur. Là. Ben oui. Presque. Là. Kevin Hart et réplique « Je fabrique peut-être moi-même ce souvenir parce que vous l'avez dit, mais je jure devant Dieu que je me souviens avoir vu ce que tu décris. Ils ont juste crié tout au long de l'épisode. » Jaron en remet. Il dit « Oh mon Dieu, oui, la petite fille Janice, je me souviens de l'avoir vue trembler. » Et le voleur de peau hurlant à travers ses dents qui grinçaient, sa mâchoire tremblait si fort que je pensais qu'il briserait ses charnières en fil métallique. J'ai éteint la télé à ce moment-là, et c'était la dernière fois que je l'ai regardé. J'ai couru le dire à mon frère, et nous n'avons pas eu le courage de la rallumer. » Incroyable.
Hein? Mm-hmm.
Mais est-ce possible qu'une émission pour enfants ait un personnage de vilain qui vole la peau des enfants et des épisodes qui sont étranges, même au point où les personnages crient pendant 30 minutes? C'est vraiment bizarre, là. Mais en même temps... Ces personnages-là étaient... En fait, les témoignages qu'on a là, les personnes qui témoignent étaient jeunes lors des événements. Donc, il est peut-être possible que leurs souvenirs soient un peu distorsionnés. Un peu comme tu disais tantôt, notre mémoire d'enfant a tendance à refabriquer un peu, reconstruire un peu nos souvenirs. Mais il arrive souvent, hein, Émile, qu'il y a des émissions pour enfants qui causent des cauchemars. Tu disais tantôt, toi, que t'avais vécu ça quand t'étais jeune.
Oui.
Des émissions comme ça. T'as-tu d'autres émissions où est-ce que tu faisais des cauchemars ou des choses comme ça?
Ben, je t'avoue que je t'ai parlé tout à l'heure de la scène de l'éléphant dans Passe-partout.
Oui, c'est ça.
Celle-là, je me rappelle qu'elle est revenue quelques fois. Mais je pense que, tu sais, à cet âge-là, on en consomme tellement des émissions pour enfants, puis des cartoons, puis des dessins animés que ça fait partie un peu de notre imaginaire aussi, hein, parce que moi, je me rappelle, par exemple, je pouvais écouter le dessin animé des G.I. Joe, des Transformers, puis tout de suite après, bien, j'allais jouer avec les Transformers ou jouer avec les G.I. Joe, donc ça
faisait tout ça,
Ben oui, donc parfois même la réalité, je pense, se mélangeait, c'est-à-dire que je faisais des rêves, mais est-ce que c'est le scénario que j'avais joué avant, ou est-ce que c'est vraiment un vrai épisode d'une émission télé des Transformers? J'en étais même plus sûr, là, tu sais.
Non, effectivement.
Toi, est-ce qu'il y a des émissions de ta jeunesse qui te faisaient faire des cauchemars?
Ben, je me souviens, mais je me souviens pas du titre, en fait. Je me souviens qu'il y avait une marionnette en vampire.
OK.
Ça jouait soit à Télé-Québec ou qu'ils appelaient Radio-Québec à l'époque.
Oui.
Ou à Radio-Can, je sais plus. Il y avait une émission avec un personnage en vampire, en marionnette. Puis il y avait quand même une thématique un peu d'horreur. Il me semble que ça n'a pas duré longtemps. Ça, je me souviens que ça me faisait peur, mais j'aimais toujours ça quand même, la regarder. Sinon, dans les émissions pour enfants, je me souviens pas tant que ça avoir eu peur. Mais moi, j'avais tendance à écouter Dossier Mystère et des choses comme ça. C'est ça qui me faisait peur. Mais au niveau des émissions pour enfants, j'ai pas été tant troublé. Les films d'horreur, là, ça oui, là, comme Candyman, j'avais une curiosité, puis ma mère n'était pas capable de toujours me contrôler, là, tu sais, surveiller tout ce que j'écoutais. Mais sinon, dans les émissions pour enfants, ça m'a pas tant, j'ai pas tant de souvenirs d'avoir eu peur. C'est vraiment les films, moi, qui m'ont... parce que j'avais tendance à me lever super tôt le matin. Puis à l'époque, à Super Écran, qui était un genre de Netflix de l'époque, si on veut, qu'on avait des films, pas sur demande, là, mais un peu toujours, je me levais super tôt. Puis à 4-5 heures du matin, il faisait la rediffusion du film du soir, qui était souvent un film pour les plus vieux. Puis souvent, je tombais là-dessus en me levant le matin, puis ce sont des films d'horreur, des trucs comme ça. Là, c'est... dans mon enfance, c'est ça qui me faisait peur. Et non les émissions pour enfants, on dirait que ça a passé comme correct.
Ah ben tant mieux.
Oui, j'ai pas été trop traumatisé par les émissions pour enfants.
Finalement, si on revient à Candle Cove et à la discussion qui est en cours sur Net Nostalgia, Mike Painter va conclure la discussion avec cette dernière publication qui passera à l'histoire. Et ça va comme suit. J'ai rendu visite à ma mère aujourd'hui, à sa maison de retraite. Je lui ai demandé si lorsque j'étais jeune, au début des années 70, quand j'avais 8 ou 9 ans, si elle se souvenait d'une émission pour enfants nommée Candle Cove. Elle était surprise que je me souvienne de cela, et je lui ai alors demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Parce que je trouvais toujours cela étrange quand tu me disais « Hey, je vais regarder Candle Cove, maman. » Car tout de suite après, tu allumais la télé et regardais une station avec une image de statique pendant 30 minutes. » Je trouvais que tu avais une bonne imagination avec ton émission de pirate. Et c'est alors que se termine la discussion. Il n'y aura plus de commentaires par la suite. L'histoire va rester un peu en dormance pendant environ 2 ans. Et en 2011, des internautes sur Reddit et autres forums redécouvrent l'échange à propos de Candle Cove et l'émission va avoir un regain de popularité. Parce que là, en fait, on se dit que non seulement est-ce que c'est une émission qui était très weird, mais qui en plus, est-ce que c'est une illusion collective? Oui, est-ce que les enfants regardaient du statique mais, et que Candle Cove était un produit de leur imagination? Et si oui, comment plusieurs personnes peuvent se rappeler de
la même chose
collectivement? Et justement, à partir de 2011, il va avoir vraiment une explosion de partage de cette histoire-là. Donc, ça, on se rappelle, c'était vraiment un truc obscur qui se déroulait au fin fond du web. Mais là, ça va être partagé un peu partout sur Reddit, sur 4chan, sur différents blogs. Et on va voir des pages wiki apparaître où les gens vont décrire chaque épisode de la série. Donc là, ça va aller assez loin. Et cette page-là, je suis allé la voir, elle est vraiment bien faite. Là. C'est vraiment comme un Wikipédia officiel, là, mais encore plus beau, avec les descriptions de chaque épisode, dont le fameux épisode des cris.
Oh.
Et puis, sur la page titre de Candle Cove, on peut y lire cette description. Candle Cove était une émission télévisuelle de marionnettes destinée aux enfants. À l'origine, l'émission devait se nommer Pirate Place. Produite localement à Ironton, en Ohio, la série prétendait vouloir éduquer les enfants avec du contenu avant-gardiste, visuellement, artistiquement et techniquement. Quand même assez surprenant de lire ça. La série est apparemment librement adaptée d'une nouvelle appelée The Knickerbroker. En fait, non, pardon, c'est The Knickerbroker's Tale, datant de 1767.
Quand même, hein?
Ben oui. Par la suite, toujours sur la page Wikipédia, on peut y lire beaucoup de détails sur la production de cette série. On y apprend que la série a été officiellement annoncée à la télé en 1968, que deux étudiantes de l'époque, Caroline Barker et Mary Prescott, sont à l'origine de la création de la série et de la création des marionnettes. La série aurait pris 5 ans à développer. On y apprend aussi que le premier pilote a été diffusé en 1971 et que les objectifs de la série étaient de mettre le programme d'éducation de l'Ohio au plus haut niveau au pays.
C'est un peu l'objectif de Passe-partout au Québec, hein?
Absolument.
Parce que cette émission-là, à l'époque, elle a été créée par le ministère, financée par le ministère de l'Éducation pour éduquer les masses.
Oui.
En fait, tous les gens qui avaient peut-être moins de contacts et tout ça, puis c'était vraiment l'objectif de base. Puis je pense que là-dessus, ils ont quand même réussi. Mais c'est drôle que Candle Cove avait le même objectif, surtout quand on regarde la déclinaison du produit.
Et la distribution des personnages avec le voleur de peau
ben
et le pirate Percy.
Je me demande qu'est-ce qui est éducatif là-dedans.
Oui, c'est ça semble plus à des techniques de brainwashing.
Oui,
là.
Effectivement.
Mais on en a vu d'autres, hein. C'est possible que ce genre de choses-là existent aussi. Des internautes vont même illustrer les personnages de la série selon leurs souvenirs. Il semble y avoir un véritable engouement envers la série. Le problème, et je me suis aussi porté au jeu, c'est que lorsque l'on fait des recherches sur Google à propos de cette histoire, on ne trouve rien d'officiel. Comme si aucune trace numérique n'avait survécu à l'épreuve du temps. Aucune trace sur Internet d'une nouvelle appelée The Knickerbroker's Tale, qui date de 1767. Et finalement, bien, tout porte à croire, ou du moins à se demander, est-ce que Candle Cove a véritablement existé?
Hélas, mon cher Émile, je dois te rappeler ici qu'on a affaire à une histoire de creepypasta. Et que, bien souvent, les fondements de cette histoire sont tirés de l'imagination des internautes. Dans ce cas-ci, il fut révélé que Candle Cove est vraiment une pure création d'un jeune auteur assez génial du nom de Chris Trubb. Chris a d'abord créé cette histoire de toutes pièces pour son site web, qui est constitué d'histoires très semblables. On l'a dit un peu plus tôt, mais ce type d'écriture où l'on s'inspire des codes du web représente vraiment une nouvelle forme de littérature de l'ère numérique. Et c'est un peu ce que voulait expérimenter Chris Taube avec Candle Cove. Il voulait créer une histoire à partir d'un dialogue d'un forum, un peu comme si l'histoire se déroulait sous les yeux des internautes.
Oui.
Je trouve qu'il a bien joué son jeu. là-dessus. Chris était loin de se douter que cette histoire-là irait aussi loin, en fait, quand il a créé ça. D'ailleurs, il a pris un certain temps avant que Candle Cove devienne viral. On parle, comme on vous disait, d'au moins quelques années. Les internautes se sont appropriés l'histoire en la republiant un petit peu partout sur le web, sur Reddit et sur 4chan, en oubliant souvent d'en citer la source, comme ça arrive assez régulièrement. Le problème aussi, c'est que plusieurs personnes pensaient que c'était vrai. Donc, l'histoire était partagée comme une vraie nouvelle, ou du moins comme un phénomène inexpliqué. Des milliers de gens sur le web se demandaient et se demandent encore si l'émission de télé bizarre a bel et bien existé. C'est vrai que là, on tombe vraiment dans l'effet Mandela.
Oui, carrément. Parce que ce qu'il a fait, en fait, Chris Straub, c'est qu'il a créé tous ces personnages-là fictivement. Il a bâti son histoire en quelques commentaires sur le forum. Mais par la suite, lorsque les internautes récupèrent ça, il est plus tant que ça... comment dire, il contrôle plus tellement les aboutissements de son œuvre. Donc, il y a des gens qui ont posté ça à des endroits en prétendant que c'était vrai. Donc, lui, il a écrit ça, c'est une forme de roman, un nouveau genre, en fait, là, qui utilise les codes des forums et tout ça. Mais certaines personnes l'ont posté sur Reddit comme quoi c'était un vrai mystère.
Donc, comme une vérité.
Oui, il y a vraiment des gens qui ont fait des enquêtes. C'est moi-même, j'ai été pris au jeu. Puis quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai fait une véritable petite enquête. T'sais, j'ai commencé à googler le nom des gens, tout ça. Même la ville de Ironton, je l'ai googlé. Le fameux le texte qui aurait inspiré tout ça.
Oui, c'est ce que j'ai demandé.
Même chose, tu fais des recherches, tu essaies de trouver des pages IMDB sur Candle Cove. Et c'est vraiment bluffant, en fait. Il y a des gens qui pensent que c'est véritablement arrivé. Et puis en plus, ben, il y a eu tellement de créations d'internautes en lien avec ça. On a parlé du Slenderman tout à l'heure, où vraiment ça a pris des proportions incroyables, mais il y a énormément d'artistes qui ont contribué à faire du Slenderman une légende urbaine.
Oui, absolument.
En créant des pages, des trucs sur DeviantArt un peu partout. Et Candle Cove, c'est un peu la même chose qui est arrivée. Donc les internautes ont commencé à illustrer des personnages. Il y a même des fans qui ont réalisé des fausses émissions de télé en prenant pour exemple la fameuse discussion sur le forum de Nostalgia. Et puis, ils les ont postés sur YouTube comme si c'était des authentiques. Donc, il y a quand même eu une certaine appropriation qui a amené le projet à un autre niveau, là. Puis... encore aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que des gens commentent en indiquant qu'ils s'en rappellent. Même moi, en faisant une recherche, j'ai lu un article dans un média de masse.
Okay.
Et puis, en bas, tu pouvais commenter avec ton compte Facebook, comme c'est le cas dans bien des médias. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui a carrément commenté « C'est très vrai, je m'en rappelle. Je me rappelle de tel épisode. » Donc, il y a une participation encore active. Et puis, un peu comme le Slenderman... Plusieurs, on se retrouve dans la frontière entre la fiction et la réalité ici. Là. Et ce qui est fascinant, c'est que Chris, le créateur de Candle Cove, indique lui s'être inspiré d'un article du site The Onion, qui est un site de parodie de nouvelles. Je dis pas que c'est un site de fausses nouvelles, car selon moi, The Onion ont inventé le genre. Et c'est un article qui date de l'an 2000. Donc, juste pour vous montrer à quel point c'est un site qui est là depuis longtemps. Et puis, ça traite d'un homme de 36 ans qui, encore à son âge, a des cauchemars d'une émission de télé bizarre qu'il regardait alors qu'il était enfant. La série, cette fois-ci, est bien réelle. Elle se nomme Lidsville, qui a été produite dans les années 70. Et là, c'est vraiment weird. Dans cette série-là, il y a un jeune garçon qui est pris au piège dans un monde cauchemardesque avec des chapeaux géants qui parlent. J'ai vu les extraits, c'est quand même bizarre.
Okay.
Les personnages ont d'horribles maquillages, là, très laids. Ça a été créé par, je crois, un couple là, qui était un peu dans le psychédélisme okay. et tout ça. Là. L'article, l'émission est vraie, mais l'article, lui, il est satirique. Et l'article, il visait justement à capturer l'esprit des émissions jeunesse un peu psychédéliques des années 70 en mentionnant que ben, qu'à 36 ans, le gars a encore des cauchemars de cette, de cette émission-là, là, tu sais. Donc, c'est de ça un peu que Chris se serait inspiré pour écrire sa petite nouvelle en se disant je vais reproduire un peu cette histoire-là en tentant de voir si les gens vont s'en rappeler pour vrai. Là. Et puis, même s'il ne nomme pas Polybius comme source d'inspiration, l'histoire me le rappelle aussi. On se rappelle, Polybius, dans ce cas-là, c'était une publication mystérieuse sur un forum, un jeu vidéo mystère, des enfants qui vivent des cauchemars en y jouant, mais aussi plein d'éléments de la vie réelle qui s'y rapprochent puis qui fait en sorte que la légende urbaine gagne la crédibilité. Par exemple, les machines d'arcade de la région de Seattle qui ont vraiment été investiguées par des agents, un enfant qui a fait une crise en jouant à Tempest. Donc, c'est des éléments réels qui ont vraiment contribué à faire en sorte que la légende de Polybius, encore aujourd'hui, on en a parlé dans un épisode dédié, en fait. Je me rappelle plus quel numéro d'épisode, mais...
Deuxième saison, je pense.
On approche de notre 50e, oui, c'est Seb, ça. Hein? Donc,
avec comme les vieux, on perd la mémoire.
Oui, exactement. Il y a beaucoup d'épisodes, mais on a fait un épisode entièrement là-dessus. Mais Polybius, justement, c'était un peu un creepypasta avant son temps, c'est d'une certaine façon. Hein? On n'a pas la preuve à 100% que c'est faux, mais bon...
La preuve à 100% que c'est vrai.
Exactement. Et puis, il y a un certain héritage aussi à Candle Cove, parce que ça a fait un bon bout de chemin, hein. Ça acquiert beaucoup de popularité. Il y a une série de télé qui a été produite par le Sci-Fi Channel. En fait, la série se nomme Channel Zero et produite en 2016. Cette série-là met en vedette les personnages là, qu'on lit là, dans la discussion du fameux forum, mais avec une toute autre histoire qui l'englobe, avec des acteurs et tout ça. Mike Painter, qu'on retrouve dans les commentaires, joue le personnage principal qui retourne dans sa ville d'enfance à la recherche de son frère qui a disparu. Je dis ça parce que ça a l'air presque intéressant comme série. Il reparle alors avec des amis de son village de cette série télé qui rendait les enfants violents et capables de commettre des crimes. Donc, la série est légèrement distorsionnée. Là. Ils l'ont adapté d'une certaine façon.
Ça doit être bon, par exemple.
La prémisse est vraiment intéressante. Puis, ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est que pour les besoins de la cause, Sci-Fi a recréé une partie de la série originale avec les marionnettes. Donc, évidemment, pour illustrer leur série. Donc, c'est possible de voir une adaptation de cette fausse mémoire collective là sur en vidéo. Donc c'est quand même intéressant, il y a des scènes qui se retrouvent sur YouTube que vous pouvez aller voir et c'est très fidèle à ce qui est raconté sur le forum avec les personnages, les marionnettes où ça a l'air d'être des assemblements de poupées cheap provenant de plein de sources différentes et encore une fois ce mois-ci je regardais sur YouTube et il y a des gens qui commentent la vidéo en assurant que la série a bel et bien existé. Donc, le mystère vraiment, ben, je dirais pas le mystère, mais la légende, du moins, persiste de plus en plus. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la chronologie des événements, Seb, et de la fabrication de cette creepypasta. Moi, j'ai toujours trouvé que Candle Cove était fascinante comme légende. Y a certains médias qui l'ont décrite comme étant justement une des légendes urbaines les plus populaires ou du moins les plus mystérieuses du web. Toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Comment t'as trouvé ça, te plonger là-dedans?
Ben moi au départ quand je creusais le sujet j'avais l'impression que c'était vrai, tu sais, ben rapidement je l'ai su que c'était pas vrai, mais on dirait que même si j'ai pas vécu en Ohio et tout ça, j'aimais y croire que c'était une vraie série télé puis qu'il avait peut-être été étant donné son côté peut-être non éthique, je me disais ah mais peut-être qu'il y a pas eu de trace d'archives ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque Si quelque chose sortait pas à quelque part, il n'y avait pas d'archives. Tu sais, maintenant, dès qu'une nouvelle sort sur Google, elle est imprégnée à vie ou à peu près, mais j'avais ce feeling-là. Bon, rapidement, c'est sûr qu'en lisant, mais en même temps, je trouve que l'auteur est, je trouve très, très brillant, puis je trouve ça intéressant.
Oui, absolument.
Parce que d'un certain côté, c'était peut-être, il a fait une expérience sociologique, tu sais, en créant ce truc-là, puis ça, j'aime bien observer ça. Puis actuellement, toutes les déclinaisons, même que sci-fi fasse ça, je trouve ça le fun.
Ben
c'est,
oui.
Il y a une genre d'appropriation de la culture web qui ressort en télé puis qui a été créée. Non, c'est vraiment fascinant. Mais moi, en fait, c'est encore là, c'est le phénomène vraiment que sociologique que des vraies personnes se rappellent d'une fausse histoire parce que
oui
elle a pas existé là la série c'est clair t'sais. Puis que des gens vraiment mentionnent que eux ont le souvenir mais on retombe encore dans l'effet Mandela là. On dirait que les gens pour j'y crois beaucoup à la construction de la mémoire hein, tu sais qu'on se construit des fois pour faire partie du groupe où j'ai de la misère à l'expliquer précisément, j'aime ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des gens se souviennent de choses qui s'est jamais passé. Tu sais, il y a quelque chose qui fait que le cerveau déclenche cette construction-là,
ben oui, la
motivation,
l'effet de groupe. Oui, c'est
ben
clair
oui,
que ça peut avoir
des impacts,
une influence. Puis je pense que c'est qu'une des raisons pour lesquelles justement les creepypasta, mais aussi les légendes urbaines ou les histoires un peu comme l'effet Mandela ouais. Nous passionnent autant, puis pourquoi Candle Cove et le Slenderman aussi nous passionnent autant. En fait, il y a une docteure suédoise là, en psychologie du nom de Lynn Henriksen qui, elle a analysé les plusieurs types de creepypasta de légendes urbaines du web. Puis elle, ce qu'elle nous dit, c'est que selon elle, le Slenderman et les autres creepypasta comme Candle Cove représentent une autre frontière de l'horreur qui se rapproche de ce qui a été fait par H.P. Lovecraft, entre autres, où justement c'est une forme d'horreur qui est pas nécessairement présente via la violence, via les bains de sang, mais qui joue sur notre morale et qui joue sur notre mental, mais aussi sur notre mémoire et sur nos incertitudes. Mmh. En fait, ça vient vraiment brouiller les pistes de ce qui est réel ou non, puis ça nous rend extrêmement inconfortables. On est tous terrorisés. Mmh. Face à l'inconnu, et souvent ces creepypasta-là nous font remettre en question nos certitudes mémoniques nos souvenirs et tout ça, puis on dirait que lorsqu'on remet ça en question, lorsqu'on se dit « Attends, ben t'es en train de me dire que cette série-là a jamais existé, ou que, je sais pas moi, les oursons Berenstein, c'est Berenstein, et j'ai cru ça toute ma vie, eh bien... C'est clair que ça fait peur. C'est une forme d'horreur un peu psychologique.
Ouais,
puis
ouais,
ça fascine en même temps. Puis l'horreur aussi vient aussi des forces qui contrôlent le monde. Puis en fait, il y a plusieurs de ces forces-là qu'on contrôle pas. Donc se faire mettre comme ça face à nos incertitudes, puis à des fausses mémoires, eh bien, ça fait juste nous remettre en question encore plus puis nous angoisser.
Mais c'est vrai que ça fait ça. Ça fait vraiment un drôle de sentiment. Je pense qu'il y a l'impression d'être mis à part ou non, c'est...
Mais aussi, en analysant Candle Cove, Seb, moi, ça me fait aussi vouloir analyser un peu qu'est-ce qui arrive pour notre jeunesse actuelle, parce qu'elle est énormément présente sur YouTube, puis on le sait sur YouTube, surtout ces temps-ci, il y a des trucs assez troublants qui s'y déroulent.
T'as tellement raison, l'année 2018, en fait, était hyper marquante.
Il y a eu des scandales.
Pour YouTube, effectivement, il y a eu des chaînes qui ont été fermées, des chaînes qui s'adressaient aux enfants, mais qui avaient un contexte assez particulier. Je sais pas si vous vous souvenez on peut le dire au passé, parce qu'elle a été fermée, cette chaîne-là, mais la chaîne Toy Freaks.
Mm-hmm.
Puis moi, je vous explique, en fait, la chaîne Toy Freaks, c'était une chaîne qui a été créée par un père célibataire avec ses deux enfants.
OK.
Puis lui, il mettait en contexte un peu comme, c'est assez courant, là, dans le fond, tu fais jouer tes enfants à des jouets, puis évalue des choses, mais lui, où tu mets tes enfants en scène et tout ça. Puis généralement, les chaînes qui font ça, c'est clean, là. Je veux dire, c'est des mises en scène normales. Mais Toys Freaks, le père, il créait des conflits entre ses deux enfants.
Okay.
Il y avait beaucoup de chicanes. Moi, je me souviens, j'avais interdit à ma fille, puis je suis pas très têteux, mais ça, j'avais interdit de l'écouter parce que je trouvais que ça faisait pas de sens, tout ce qui se passait. Puis justement, même il a été extrêmement critiqué, le père de famille, même que je sais que les services sociaux américains sont allés vérifier s'il maltraitait pas ses enfants.
Mm-hmm.
Il y avait toujours des contextes de violence et tout ça au travers des évaluations de jeu, puis beaucoup d'humiliation entre les deux enfants. Je trouvais que c'était extrêmement malsain, même si c'était de l'acting. Je trouvais que les enfants étaient trop jeunes, de un, pour saisir que c'était de l'acting, puis de deux, c'était une mauvaise qualité. Mais malgré tout, avant de fermer sa... Parce que YouTube ont fermé sa chaîne, en fait, parce que ça... À un moment donné, ils ont resserré tout ça parce qu'ils commençaient à avoir beaucoup de plaintes au niveau de leur politique, puis ça ne correspondait plus à leur politique, en fait, de respect de l'audience et tout ça. Mais crème, quand ils ont fermé, il y avait quand même 8,5 millions d'abonnés. C'était assez fou, là. La chaîne accumulait 500 vidéos, puis elle avait plus de 7 milliards de vues. Donc, le papa,
il y avait une certaine forme de voyeurisme, peut-être. D'avoir cette famille-là se dégrader. Là.
Mais tu sais, les gens qui écoutent ces chaînes-là, c'est les enfants. Puis, ils n'ont pas le même regard que nous. Mais moi, je m'en suis rendu compte, parce que ma fille, au début, elle aimait ça. Puis, moi, je voulais pas qu'elle voie ça. Fait que je me dis, si elle aimait ça, il y a des tonnes d'enfants qui aimaient ça. Puis, elle-même, en écoutant, elle a contribué à ça. Mais heureusement, ça a été fermé, cette chaîne-là. Puis, il y en a eu des clones un peu comme ça, qu'il y a eu quand même un certain ménage qui a été fait. Puis, c'est une bonne chose, parce que YouTube, il n'y a pas de règles. Tu sais, ben là, YouTube ont des règles maintenant, puis ils sont plus sévères, justement, à cause de ça. Heureusement. Mais sinon, c'est pas très encadré.
Non.
Ce genre d'émission-là pourrait pas passer à Radio-Canada, au Québec, ou à Télé-Québec, ou à TVA. Là.
Mm-hmm.
Ça fait pas de sens au niveau du contenu. Là. Une émission pour enfants qui met des enfants enceintes, qui chicanent. Puis ça fait aucun sens. Fait que YouTube, ça permet ça. Puis il y a des gens qui profitent de ça. Puis il y a des enfants que... Les enfants ont pas le même... Ils ont pas la même critique que nous. Ils ont pas le même regard. Eux, dès que ça bouge un peu... On dirait qu'ils sont attirés.
Ils sont stimulés par autre chose.
Exact. Donc, ça amène ça. Ça, je trouvais pas ça très sain. Il y a eu un autre cas au Québec. Ça, c'était particulier. La chaîne Toy Monster. Je sais pas si vous vous souvenez. Ils ont été découverts. C'est des gens de la rive sud de Québec, en fait. Eux, ce qu'ils créaient, c'est des personnages. Ils utilisaient beaucoup les personnages de Walt, de Disney ou de d'univers de Marvel, comme la princesse Elsa, le Batman, le Joker et tout ça. Puis il y avait toutes sortes de mises en scène. Puis ils clonaient leur chaîne avec les mêmes vidéos
ça.
Hein? Fait que c'était un genre de racket, en fait. Puis même ma fille a trippé là-dessus aussi, puis je m'en souviens, mais c'est des vidéos un peu vides de sens, tu sais, c'est juste des mises en scène un peu niaiseuses, là, tu sais, le Joker sauve la princesse, puis il se cogne dessus, il n'y avait pas de méchanceté, mais il y avait quelque chose de malsain là-dedans, je trouvais que c'était tellement vide, mais... Crime, les enfants les écoutaient, là, ils ont eu des milliards de vues, eux aussi. Je trouve qu'on tombe pas, on tombe moins dans l'exploitation mauvaise de l'enfant, mais cette chaîne-là, ça aussi, c'était bizarre. Moi, je vous dis, surveillez vos enfants parce que sur YouTube, il y a beaucoup de drôles de personnes, là, puis ça joue sur beaucoup de drôles de YouTubers, puis ça joue énormément sur les comportements des enfants au fil du temps. Puis même, je pourrais vous donner un truc, là, des trucs en fait pour surveiller parce que c'est difficile de tout contrôler. Si votre enfant va sur YouTube, en fait, assurez-vous qu'il est connecté à son compte YouTube ou créez-lui un compte Google puis un compte YouTube quand il va sur YouTube. Comme ça va vous permettre d'aller voir son historique.
Oui.
Parce que je comprends que vous ne pouvez pas toujours être là et tout ça, mais d'aller voir l'historique de ce qu'il écoute, c'est une... Par expérience personnelle, ça vaut la peine de faire l'effort. Puis des fois, quand vous n'êtes pas à l'aise avec des chaînes, dites-vous que vous avez le droit de lui dire que tu ne voulais pas qu'il écoute ça. C'est sûr que vous ne pouvez pas le bloquer ou le bannir. Mais vous pouvez lui donner des conséquences. Mais moi, ma fille, elle avait compris, puis elle les écoutait plus. Tu sais, par elle-même, une fois que j'y avais dit que je voulais pas qu'elle écoutait ça. Des fois, ça vaut juste la peine de prendre son rôle de parent, puis de fiez-vous à votre instinct, parce que des fois, on sent, tu sais, puis je l'ai vécu, on se sent comme mal, tu sais. Ah, mais là, c'est juste un truc sur YouTube, pourquoi que j'empêcherais de voir? Mais quand tu sens à l'intérieur de toi que le contenu est malsain, je pense que ça vaut quand même la peine de le dire à votre enfant. Non, et réduire le temps d'écoute s'il en écoute trop. Ça a l'air banal comme conseil, mais des fois, je trouve que les enfants passent trop de temps sur YouTube, puis ça, ça aliène. Je trouve que des fois, ça les rend un peu fous d'une certaine manière. Là. Ils changent de comportement. Fait que, c'est ça, soyez quand même conscients de ce qu'ils écoutent. Essayez de vérifier quand même ce qu'ils font pour vous assurer que le contenu qu'ils consomment, qui n'est pas contrôlé par quelqu'un qui contrôle la télé comme dans les postes traditionnels. Donc, c'est vous un peu le chef éditorial du contenu que votre enfant va écouter.
Ben merci, Seb, pour ces conseils afin d'éviter le contenu bizarre de YouTube. Ben écoutez, chers distordus, ça fait un peu le tour de Candle Cove. Oui. J'espère que vous avez apprécié. C'est toujours le fun de se faire une petite creepypasta de temps en temps. Si vous voulez en discuter sur le groupe Facebook, c'est le meilleur endroit pour le faire. Rejoignez notre communauté. Et puis, si vous avez envie de discuter de d'autres creepypasta, de comment vous avez découvert Candle Cove, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, si vous voulez partager des émissions étranges de votre jeunesse, on est curieux de découvrir. Ça peut être le fun d'ailleurs de starter un thread vraiment, là-dessus. Oui. Et oui, ben en fait, on est facile à trouver si vous nous cherchez sur Instagram, Distorsion Podcast, Twitter, Distorsion Pod, YouTube aussi, Distorsion Podcast. Des fois, c'est pratique pour écouter nos épisodes. Exact. Ils sont tous là. Et bien sûr, sur Facebook, distorsionpodcast.com. On a de la belle marchandise sur notre boutique, donc que vous pouvez trouver grâce au distorsionpodcast.com. On a des t-shirts, étui iPhone, sac et poster, et puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi.
Yes. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, mon cher Émile, ce soir?
Bien sûr. Si distorsion provoque des hallucinations ou des cauchemars chez vous, c'est tout à fait intentionnel.
Sachez-le.